Exposition philosophique par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard, le 7 juillet 93.
nécessaire si on est croyant et qu'on n'est pas bête. Non, vous ne l'êtes pas, donc je vous respecte. On a un devoir de réfléchir sur ce que représente notre monde actuel par rapport à Dieu. Que représente notre culture chrétienne européenne par rapport à Dieu? Regardez une carte du Moyen-Âge, le nombre d'abbayes, le nombre de monastères qui montraient combien toute la terre était et proclamait la gloire de Dieu. Regardez aujourd'hui ce que sont ces abbayes. Souvent des ruines. Quelquefois, elles sont, on les fait revivre. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir que nous assistons à cette laïcité, le fruit, je crois, de ces sept formes d'idéologie athée. Alors, je les mets non pas par ordre chronologique, ça m'est égal. Le positivisme, vous savez ce que c'est? Auguste Comte. Il faut de temps en temps relire Auguste Comte, parce qu'il dit les choses clairement, d'une façon extraordinairement claire. Et des bêtises disent clairement, c'est reposant. Auguste Comte dit ouvertement les pourquoi. Les questions de pourquoi, c'est l'enfant qui pose les pourquoi. C'est infantile. Tout ça est terminé. C'est l'âge métaphysique. C'est infantile. C'est le Moyen Âge. On entre dans le positivisme. La science, ce n'est plus le pourquoi, c'est le comment. Mais c'est dit ouvertement. Et le pourquoi par excellence, c'est la finalité. Donc plus de question de finalité, c'est fini. Il n'y a plus que le comment. Et par le fait même, on ne peut plus affirmer que Dieu existe. Puisque par le comment, il n'y a pas de premier. Mais la religion se transforme. Il faut la garder, la religion. Elle se transforme dans un service à l'égard des hommes. L'homme religieux est serviteur des hommes. C'est l'homme qui se donne aux œuvres humanitaires. Il se dévoue aux œuvres humanitaires. Ça, c'est l'homme religieux. La religion n'est plus le regard vers Dieu. L'adoration s'est supprimée. C'est le dévouement, la générosité social. Ce positivisme va renaître dans un néo-positivisme où on dira combien toute connaissance respectable, sérieuse sur l'homme et sur le monde sont des connaissances scientifiques. Il n'y a plus pensée philosophique. La seule chose qui reste de la philosophie, c'est la logique. Là, c'est le néo-positivisme. Deuxièmement, la praxis. Bon, vous connaissez suffisamment. suffisamment Marx pour comprendre ce que c'est que la praxis. La praxis, c'est le travail humain vu dans une perspective dialectique. Transformation de la matière en vue de la transformation de l'homme. On transforme la matière et l'homme se transforme. Et la praxis représente, si vous voulez, la vision nouvelle qu'on a sur l'homme. Mais dans le positivisme, on regarde l'homme scientifique et la seule connaissance, but de contemplation, la recherche du comment. Je crois que c'est ça qui dit le mieux. C'est l'homme transformant la matière. Marx le dit ouvertement, les philosophes jusque-là étaient des hommes qui cherchaient la vérité. Et la recherche de la vérité n'a rien modifié dans l'humanité. Il faut que le philosophe, maintenant, soit un homme qui transforme l'homme. Il y a une volonté très nette dans le marxisme de transformer l'homme, de manipuler l'homme pour en faire un homme uniquement de la praxis. Troisième position, celle de Nietzsche. Celle que nous avons vue tout à l'heure. Volonté de puissance. Volonté de puissance. Créativité. Avec ce que j'ai indiqué dans Nietzsche, cette espèce de doute latent. Une sorte d'élan mystique. Mais ce qu'il y a de plus net, c'est quand même la mort de Dieu pour l'exaltation de l'homme. Quatrièmement, Sartre. La négativité. L'homme est vu uniquement dans le complexe d'Œdipe. Donc, l'attitude de l'homme, c'est très difficile à bien préciser. Il n'y a plus de recherche de la vérité. Il y a se libérer, je dirais, ce qui en nous est le surmoi. deuxièmement, Brunswick, néo-hégélien, un néo-hégélien français. L'exaltation des mathématiques. Pour lui, Dieu, c'est l'équation différentielle. Comprenez, c'est le fruit tout simplement de la pensée mathématique. Alors on pourrait dire exaltation de la connaissance de la clarté de la connaissance, la limpidité de la conscience. Cette William Huxley, l'évolutionnisme absolu. C'est l'adaptation parfaite de son temps. En réalité, c'est ça, l'homme. Responsabilité, la responsabilité poussée à l'extrême au point de vue éthique implique que Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existe, au fond il est quand même responsable, et l'homme n'est jamais totalement responsable. Et c'est très curieux, hein. L'impératif catégorique de Kant fait poser Dieu. Hartmann, la responsabilité, donc l'impératif, il faut faire cela, conduit à nier l'existence de Dieu. Hartmann et Kant sont au contraire. Vous voyez, et c'est ça qui est peut-être intéressant à voir pour nous, c'est que on a dans cette perspective, on a une certaine exaltation de l'homme sur 8 points différents ou 7 points différents. On exalte la connaissance scientifique. On exalte le travail, vu dialectiquement. On exalte la créativité, la création artistique. On exalte la capacité que l'homme de nier pour se libérer de tout. Alors, la liberté prise comme un absolu. Exalte l'instinct, la puissance de l'instinct, ce qu'il y a de plus grand dans l'homme. C'est extrêmement curieux de voir la distinction qu'il fait entre le point de vue de la conscience qu'on a du devoir, c'est l'homme éveillé, et la nuit. Les instincts reprennent leur primauté. Il n'y a plus de contrôle. Et ça, c'est l'exaltation de l'instinct. Dans le néo-hégélianisme de Brunswick, la connaissance mathématique, la conscience mathématique et l'absolu de l'homme. Vous voyez, il y a une parenté avec le positivisme, mais c'est un positivisme beaucoup plus élégant par les mathématiques. C'est intéressant, les mathématiques ont quelque chose qui dépasse d'une certaine manière le positivisme. Il y a une sorte de noblesse mathématique. Dans l'évolutionnisme absolu, c'est l'homme relatif à son milieu et la responsabilité. Donc, chaque fois, l'homme est exalté sur un aspect. Et toujours ceci aboutit à la négation absolue d'existence d'un être supérieur, d'un être premier. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que chaque exaltation de l'homme rejette l'absolu en dehors de l'homme. C'est la recherche des différents points sur lesquels l'homme peut découvrir un absolu immanent à lui-même. Au plan théologique, j'ai tout à fait le droit, si je suis croyant, de me poser la question, qu'est-ce que ça représente, ça ? C'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de la pensée. Je crois que ça, il faut être très attentif à ça. Normalement, la philosophie est sagesse et elle aide l'homme à découvrir le bonheur. Si je fais de la philosophie, c'est pour découvrir quel est mon bonheur. Parce que je désire être heureux. Les idéologies athées exaltent l'homme comme un absolu sur tel point. Vous voyez, donc c'est la négation de la sagesse. C'est la négation de la sagesse, il n'y a plus de sagesse. Il y a une espèce de repliement de l'homme sur lui-même. S'exalter d'une manière absolue. Et la négation de l'être premier, la négation de Dieu, est l'âme de toutes ces idéologies athées. Alors, je crois que c'est important ici de comprendre ce que je vous ai déjà dit, la différence entre une sagesse philosophique et une idéologie. La sagesse philosophique est au service de l'homme. L'idéologie a servi l'homme. On met l'homme au service de l'idéologie. Ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. Le philosophe fait la chasse des idéologies. S'il est un vrai philosophe, au service de l'homme. On ne peut pas supporter les idéologies. Alors, le théologien va essayer de comprendre ce phénomène tout à fait particulier. Et en réfléchissant bien, on voit bien que toutes ces idéologies athées sont des anti-mystiques. C'est le père de Lubach qui, dans un livre très beau, très intéressant, a bien montré que ces idéologies athées n'étaient pas seulement des idéologies athées, mais que ça provenait d'une sorte de dynamisme mystique pour exalter l'homme. Si on réfléchit là-dessus, on peut se dire, est-ce que ces différentes idéologies athées ne sont-elles pas les antithèses des béatitudes évangéliques ? ces idéologies athées n'existent pas sans la culture chrétienne. Ces idéologies athées ne pourraient pas exister dans l'Inde. Elle n'existe que dans une attitude chrétienne. Ça, je crois qu'on peut assez facilement le comprendre. C'est un fait, du reste. Alors, je me pose la question, est-ce que ces idéologies athées ne sont-elles pas les antichrists, puisqu'ils proclament des anti-béatitudes? Vous savez ce que dit saint Jean quand il parle des antichrists dans son épître, sa première épître? Il dit: ils sont sortis de chez nous. On croit tout le temps que les antichrists, c'est nécessairement des hommes. Ça peut être des idéologies, fruits de l'homme, fruits de la pensée de l'homme, des idéologies athées, portées, proclamées par des hommes ou des groupes d'hommes. Il n'y a aucune espèce de difficulté là-dessus. Donc je crois bien, pour moi personnellement, ça me semble bien les antichrists, ce qui vient lutter dans ce qu'il y a d'ultime dans l'évangile, les béatitudes évangéliques. Or, les béatitudes évangéliques sont le fruit, selon saint Augustin, selon Thomas d'Aquin, sont les fruits des dons du Saint-Esprit. Par le fait même, je crois qu'on peut dire que ces diverses idéologies athées sont des oppositions directes dans ce que représente l'exercice des dons du Saint-Esprit dans l'homme pour aboutir à ces anti-béatitudes. Alors regardons cela attentivement. Premier don du Saint-Esprit, le don de sagesse. Le don de sagesse avec la béatitude des pacifiques. Le don de sagesse avec la béatitude des pacifiques, je dirais, c'est l'antithèse de Freud. Je crois que l'attitude de Freud est une attitude qui supprime toute la noblesse de l'homme dans le déclin de la civilisation. Freud a cette vision assez étonnante de cette dégradation de l'homme, où il dit: on a considéré l'homme comme image de Dieu, comme chef-d'œuvre de la création. Progressivement, on ne peut plus dire ça. Premièrement, on a compris que la terre n'était plus le centre du monde. Si l'homme était chef-d'œuvre de l'univers, il fallait qu'il habite le centre de l'univers. Vision des pères de l'Église. Or, la terre n'est plus le centre de l'univers. Première dégradation. Deuxième dégradation, avec l'évolution. L'homme n'est pas sorti directement de Dieu et des mains de Dieu. Il est le fruit d'une évolution, et donc en continuité avec l'animal. Seconde dégradation de l'homme. Troisième dégradation. psychisme de l'homme, c'est le complexe d'Œdipe. Vous voyez, trois dégradations. Et là, c'est très intéressant, parce que ça montre bien que tout est pour montrer que la personne humaine qui était regardée comme quelque chose de grand, en réalité, non. C'est quelque chose de méprisant. Dit que c'est l'antithèse du bon sagesse, bienheureux les pacifiques, les faiseurs de paix. Et rien n'est plus grand que d'être les pacifiques, les faiseurs de paix. Le don d'intelligence, source de la béatitude des cœurs purs. Le don d'intelligence, c'est l'antithèse du néo-hégélianisme.
Qui se fait pour aller plus loin
l'évolutionnisme pris d'une façon absolue. Vous comprenez ? L'évolutionnisme identifie la vie et l'évolution. Donc Dieu ne peut pas exister parce qu'il évoluerait tout le temps. Tout évolue, tout change. Vous savez bien, parole d'un homme politique, tout change. La parole d'un homme politique, c'est le pantareil des rachlites. Tout coule, tout change. Donc, vous ne pouvez jamais vous opposer. Il faut tout simplement être de son temps. Temps de conseil. Vous avez ensuite le don de force. Le don de force, c'est bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est la volonté de puissance de Nietzsche, la créativité. Vous avez ensuite le don de piété. Le don de piété, c'est la praxis. Miséricordieux. L'antithèse, cette exaltation du travailleur, c'est plus la vraie miséricorde de l'homme. À l'égard de l'homme, c'est la miséricorde à l'égard du travailleur, en opposition vis-à-vis du capitalisme. Le don de crainte. Bienheureux les pauvres. C'est le point de vue de Sartre. Et le dernier Hartmann, je crois que c'est non pas un don particulier, mais bienheureux ceux qui sont persécutés. C'est une béatitude. Il n'y a pas un huitième don, hein. Mais c'est la manière de vivre des béatitudes. On les vit dans la lutte, toutes. C'est l'inverse d'un messianisme temporel. On accepte le mystère de la croix. Bienheureux les persécutés. Et je crois que c'est bien l'antithèse de ça. C'est Hartmann. L'homme doit être responsable de tous ses actes. Désir d'une intégrité humaine parfaite, d'un stoïcisme humain parfait, où l'homme est parfaitement responsable, comme lui, pour les stoïciens. Il n'y a plus de bavure, il ne doit plus en avoir. Et on gère parfaitement son bien. Il faut faire attention, il ne faut pas prendre ça d'une façon univoque. Comprenez bien, hein ? D'une façon univoque, ce serait stupide. Mais, dans une perspective de la sagesse de Dieu qui gouverne le monde, pourquoi cette montée d'idéologie athée dans l'économie divine ? Pourquoi cette montée d'idéologie athée depuis 150 ans ? Phénomène tout à fait nouveau. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que ce n'est pas la grande attaque contre le Christ, contre l'Église, contre les béatitudes évangéliques ? Des nouveaux sentiers qui conduisent vers ça. Alors, c'est l'exaltation de l'homme pour l'homme. C'est le chiffre de la bête. Il ne faut pas l'oublier. C'est dit dans l'Écriture. 6, 6, 6. Qu'est-ce que c'est que le chiffre de la bête ? C'est l'homme qui se replie sur lui-même et qui ne veut que l'homme. Et qui exalte l'homme. Bien, il y a... C'est cette manière dont l'homme s'exalte. Parce que, de fait, la personne humaine a cette dimension. Ce que nous verrons, au point de vue philosophique, elle a cette dimension. Et ces sept dimensions sont comme des attentes des dons du Saint-Esprit. Alors, on comprend comment le démon va attaquer d'une manière très particulière ces sept attentes des dons du Saint-Esprit. Le démon ne peut pas attaquer directement les vertus théologales, ni les dons du Saint-Esprit, mais il peut attaquer l'homme dans sa disposition à l'égard des vertus théologales. Et à l'égard des dons du Saint-Esprit. Et je crois que c'est ce que nous voyons dans ces idéologies athées. Nous assistons là à l'exaltation de l'homme pour lui-même, puisque Dieu est rejeté. Alors on doit prendre conscience de cela. On doit en prendre conscience au plan philosophique. Au plan philosophique, je peux simplement dire, ces idéologies athées exaltent l'homme dans une dimension qui est en dehors de sa personne religieuse. Ça, je crois qu'on peut le dire tout de suite au point de vue philosophique. Et au plan théologique, on peut aller plus loin. On peut voir vraiment la rage du démon par rapport aux béatitudes évangéliques. Alors, si ceci est vrai, hypothèse, point de vue théologique, si ceci est vrai, ça montre que nous vivons quelque chose qui n'a encore jamais été vécu dans l'Église, au point de vue intensité, et qu'on vit quelque chose d'ultime. Le Saint-Père, la première fois qu'il est venu à Paris, à Notre-Dame, a réuni tous les évêques français qui étaient là, à huis clos, Ça m'aurait beaucoup intéressé d'y assister. Je pouvais pas. Il aurait fallu avoir une mitte et une crosse. Mais même les abbés qui ont mitte et crosse n'entraient pas. Il aurait fallu être une petite souris grise pour être en dessous. Des meubles. Précipité sur la documentation catholique dès que ça a apparu. Et j'ai lu l'homélie, du moins l'homélie, le discours du pape aux évêques français. Et j'ai constaté que le Saint-Père terminait son discours par un avertissement. L'Église vit aujourd'hui une méta-tentation. Il faut un pape qui était philosophe pour dire ça. On n'a jamais vu ça dans le langage ecclésiastique, une méta-tentation. J'ai retenu, puisque c'est un langage philosophique. L'Église vit aujourd'hui la tentation par excellence. C'est ça que ça veut dire. Ce qui est la source de toutes les autres tentations. Et le Saint-Père précise, cette méta-tentation, c'est que l'humanité est arrivée à un âge adulte de conscience d'elle-même, de son pouvoir. Grâce à la science et la technique, elle n'a plus besoin d'un sauveur. Elle pense pouvoir se sauver par elle-même. Et le Saint-Père ajoute, il n'y a plus de place dans la culture moderne pour un sauveur. C'est l'humanité qui prend conscience de sa puissance et qui, par elle-même, refuse son sauveur. Et la tentation, je crois, ce qui est exprimé par le mythe de la tour de Babel, c'est l'humanité qui se replie sur elle-même et qui veut se sauver. Et qui prétend se sauver elle-même. La négation de l'existence de Dieu, c'est la négation du Sauveur. Et c'est l'humanité qui prétend pouvoir se sauver elle-même. Je crois que c'est exactement cela. Je fais le rapprochement, tout simplement. Et j'essaie de comprendre. J'essaie de voir ce que tout ça signifie pour nous. Mais... Alors, vous allez me dire, vous dites alors qu'on est tout proche de la fin. Je n'en sais rien, et vous non plus. Mais je dis ça. Je constate cela. Et je constate aussi, selon l'Apocalypse, que le signe ultime qui nous est montré et qui indique le retour du Sauveur. Il ne faut pas l'oublier, c'est dit dans l'Évangile. Jésus dit qu'il y aura des signes aussi visibles que le printemps. Ben, c'est le petit bourgeon. Hein. Quand vient le petit bourgeon, vous dites, tiens, le printemps arrive. Et Jésus dit qu'il y aura des signes aussi visibles que ça. Donc on serait bien bête de ne pas les regarder. Et quel est ce signe? Selon l'Évangile, c'est l'angoisse. ce n'est pas la guerre. Et la guerre, il y en aura toujours. Et c'est l'angoisse. L'angoisse, c'est le signe, selon l'Apocalypse, c'est très très net. C'est le signe dernier, ultime, avant le retour du Christ. Et il est souligné que l'angoisse regarde toute espèce d'homme, qu'il s'agisse d'homme libre ou d'esclave, qu'il s'agisse de capitaine ou d'ouvrier, d'homme misérable. Ça atteint tous les hommes et ça les met tous au même niveau. Mais l'angoisse, rien n'est plus angoissant que de faire croire aux hommes qu'ils n'ont plus de père. Comme esprit créé, du moins comme esprit limité, ils n'ont plus de père. Il n'y a rien de plus angoissant que ça. Alors, la suppression, justement, la mort de Dieu, la suppression de Dieu, du Créateur, c'est la suppression du Père pour l'esprit humain. C'est donc mettre l'homme dans une situation limite, extrême, d'angoisse. On l'a étudié, c'est un psychanalyste autrichien qui a noté que le refoulement le plus terrible, donc celui qui angoissait le plus, c'est le refoulement religieux, c'est-à-dire le refoulement à l'égard de notre dépendance à l'égard de Dieu. Supprimer et vouloir supprimer à tout prix cette dépendance à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur, c'est mettre la nature humaine dans un état d'angoisse. Et rien n'est plus radical que cela, puisque vous supprimez toute stabilité pour l'homme. L'homme est stable dans la mesure où il est uni à Dieu. S'il n'est plus uni à Dieu, il ne connaît aucune stabilité. Et donc, il est très vite dans l'angoisse. Alors, ce signe, c'est pour nous faire comprendre l'importance pour nous de redécouvrir la conséquence immédiate de la découverte de Dieu Créateur. Découvrir par notre intelligence que il existe un Dieu, et ce Dieu qui est notre Créateur, nous devons l'adorer. C'est l'adoration, l'acte humain, je dis bien l'acte humain. Un homme qui n'adore pas est un errant. Il ne sait pas où il va. Un homme qui adore se détermine vers celui qui peut seul le sauver. Il se détermine vers son Père. Et par là, acquiert une stabilité. On comprend comment les hommes, qui reconnaissent l'existence de Dieu et du Créateur et qui adorent Dieu remontent à leur origine. Par l'adoration, vous êtes liés à l'acte créateur de Dieu. L'acte créateur de Dieu actuel pour mon âme spirituelle, créée par Dieu. Et je remonte à ce contact direct, immédiat, sans intermédiaire, du Dieu créateur qui crée mon âme. Et cette âme créée par Dieu, cet acte est actuel. Et en réponse à cette découverte, j'adore celui qui est mon Père, celui qui est mon Dieu, celui qui est mon Créateur. Et je reconnais que c'est le lien avec mon Créateur, avec mon Dieu, qui me permet de connaître une stabilité unique. Qui est le fait de remonter à la source d'où je viens et me permettre de m'unir à cette source. Et donc, de me permettre de découvrir vraiment d'une manière unique cette adoration. Et par cette adoration, la stabilité la plus radicale, la plus profonde que je puis acquérir.